D'accord. Okay. Bon, merci. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, merci de m'avoir accueilli au sein de l'Université Populaire pour vous donner cette conférence. D'abord, je me présente. Je m'appelle Monse Emperador Valimon et je suis maître de conférence en sciences politiques à l'Université Lumière Lyon 2. Et mon but aujourd'hui, c'est de vous parler sur le mouvement contre les expulsions en Espagne et concrètement du cas d'un groupe qui est devenu central dans ce mouvement depuis 2009. C'est la PA, la plateforme des victimes des hypothèques. Non, cela en catalan, c'est Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, en espagnol, Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Et donc, cette conférence s'inscrit dans le cours sur mouvements sociaux et institutions politiques, liaisons dangereuses. Et si la semaine dernière, on avait eu la possibilité d'écouter Andrea Galvao sur le rapport entre les mouvements sociaux et des gouvernements Lula, le gouvernement de Lula et de Dilma, censé être sensible aux thèses ou aux visions du monde des mouvements sociaux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mouvement social ou concrètement d'une organisation qui a construit un rapport conflictuel à l'égard de deux gouvernements de signes idéologiques différents. Hein. D'abord, un gouvernement social-démocrate, hein, le gouvernement du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol entre 2003 et 2011, et en deuxième lieu contre le gouvernement libéral du Parti Populaire à partir du 20 novembre 2011. Aujourd'hui, ça fait 2 ans de la victoire du Parti Populaire des dernières élections. Alors, mais pourtant, je vais commencer donc avec une petite introduction sur la crise du logement en Espagne. Puisque donc, vous savez, j'imagine que certaines et certains parmi vous savent, connaissent le fait qu'entre 1998 et 2007, la croissance économique espagnole s'est fondée fondamentalement sur le secteur de la construction et des facteurs tels que la réqualification des terrains en sol urbanisable, le jeu spéculatif, la facilité du crédit et l'achat de propriétés par les familles fondées sur l'accès au crédit ont alimenté une bulle immobilière qui explose en 2007-2008. Quelles sont les caractéristiques de cette bulle? Très rapidement, la frénésie constructive, je ne sais pas si on peut dire ça, mais comme exemple, en 2005, l'Espagne a construit plus que la France, l'Italie et l'Allemagne ensemble. Dans la flambée des prix du mètre carré est construit, le recours massif au crédit, hein, entre 2000 et 2007, plus de 11 millions de contrats hypothécaires sont signés et des mouvements spéculatifs, des achats, ventes d'immeubles de caractère spéculatif. Et donc l'éclat de cette bulle immobilière a laissé à son passage la paralysie du secteur de la construction et l'a jeté au chômage des milliers de personnes, des milliers de travailleurs engagés dans le secteur de la construction et dans les secteurs associés à la construction. Et surtout, donc, ce qui m'intéresse ici, et là aussi, l'éclat de la bulle a aussi laissé une situation d'endettement majuscule des familles qui avaient acheté des appartements, des maisons, des biens d'immobilier pendant cette période, la période de construction, de développement de la bulle, hein, entre 1997-1998 et 2007. D'après les données du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire en Espagne, entre 2007 et 2012, se serait produit plus de 150 expulsions par jour. Au niveau de tout l'État, donc 150 par jour, et la plupart de ces expulsions concernent des locataires, 7 sur 8 expulsions concernent des locataires, mais les expulsions d'hypothéqués, de propriétaires, ont acquis une visibilité majeure. Et donc c'est la raison pour laquelle je vais vous parler de la PA, de cette plateforme des victimes des hypothèques, qui c'est le groupement qui s'est imposé avec plus de force pour dénoncer cette situation. Alors donc c'est un collectif qui est créé en 2009 et dont les revendications principales sont l'arrêt des expulsions, notamment des expulsions d'hypothéqués, des personnes hypothéquées, une réforme de la loi hypothécaire qui régule la dation en paiement. Alors je ne sais pas si l'expression est correcte, en espagnol, dación en pago. Et en fait, cela consiste dans le remboursement de la dette, du prêt contrait avec la banque, avec le rendu de la maison. C'est-à-dire, une des caractéristiques de la loi hypothécaire espagnole, c'est que le bien immobilier acquis n'est pas la seule garantie du prêt. En fait, la garantie s'étend aussi au salaire de la personne hypothéquée, aux autres propriétés, aux propriétés des garants solidaires. Et en fait, une des revendications de la PA, c'est que la dette soit remboursée avec l'octroi, avec le rendu de la maison à la banque. Et une troisième revendication centrale de ce groupe, c'est l'augmentation du parc de logements publics en Espagne, qui se caractérise par sa taille très 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 limitée. Et donc c'est un groupement qui fait une définition du problème de logement en Espagne aujourd'hui, surtout en termes de propriétaires, même si aujourd'hui cela commence à connaître des changements, mais jusqu'à très récemment, pour l'APA, le problème du logement en Espagne renvoie surtout au problème des familles qui se sont hypothéquées ou qui ont hypothéqué leur maison. C'est un mouvement qui se présente comme étant un mouvement transversal, un mouvement à partisans, du point de vue en fait de la diversité en termes de choix électoral des gens qui en font partie, des militants de cette association, et qui en fait a construit un rapport conflictuel à l'égard du Parti Socialiste et du PP. Ce groupement et d'ailleurs d'autres acteurs des mouvements sociaux parlent du PP-PSOE, en faisant une contraction entre PSOE et PP, pour montrer ou pour signifier que ce sont deux partis dont les choix en politique économique ne s'éloignent pas tellement. Ce rapport conflictuel s'instaure notamment à travers du discours et à travers des actions, et je veux m'intéresser à ces deux niveaux, le discours de l'APA et les actions de l'APA, notamment deux campagnes de l'APA. Mais pour que cela soit compréhensible, il faudrait quand même que d'abord je vous parle un petit peu des politiques de logement en Espagne et que je vous parle aussi un peu des autres acteurs du droit au logement en Espagne. Et donc je vais commencer assez brièvement avec une petite caractérisation de l'histoire des politiques de logement en Espagne, mais à partir des années 50. Et bien entendu, donc ce sont des politiques qui ont traversé différentes étapes, mais on peut identifier un élément constant. Cette constante, c'est la promotion de l'accès à la propriété au détriment du loyer. Donc c'est l'accès à la propriété qui a été privilégié depuis les années 50 par les politiques de logement conçues et appliquées par différents gouvernements. Je vous cite une phrase qui illustre assez bien cette position. C'est une phrase dont l'auteur est un des ministres franquistes du logement, José Luis Arrese, qui disait à la fin des années 50, on veut construire un pays de propriétaires et pas de prolétaires. C'est une idée qu'on retrouve tout au long de la politique de logement espagnole. Et au-delà de cette priorité générale, les politiques des années 50-60 identifiaient comme priorité la stabilisation des populations migrantes dans les périphéries des grandes villes. Les politiques de logement des années 70 privilégiaient la consolidation du secteur de la construction comme secteur dynamisateur du marché de l'emploi. Et à partir des années 80, peut-être la caractéristique majeure des politiques de logement, c'est l'encouragement de l'achat à travers de différentes formes d'incitation fiscale à l'achat de première et de deuxième résidence. Alors le but étant d'orienter le majeur nombre d'individus vers le marché libre. Et quel est le résultat? Le résultat, c'est que à partir des années 80, la propriété s'impose comme forme de détention immobilière. Alors, certains chercheurs, par exemple ceux de, je cite, les chercheurs de l'Observatoire métropolitain de Madrid, qui est une sorte de think tank, de mouvement, bon, oui, association, fondation qui a fait des recherches, actions. Donc, ces chercheurs, qui s'intéressent surtout aux questions urbaines, parlent de la propriété comme forme hégémonique de détention immobilière. Et en fait, il est très fréquent d'entendre des arguments qui justifient le consentement de ce modèle comme un trait culturel. Donc, c'est très fréquent d'entendre de formules telles que les Espagnols ont une culture de la propriété, les Espagnols ont une attraction atavique pour l'acquisition de biens immobiliers, dont les Espagnols identifient l'accès à la propriété comme forme de promotion sociale. Ce qui, bon, ce n'est pas spécifique à l'Espagne, mais en tout cas, c'est bien enraciné. Mais pourtant, les recensements de population et de logement montrent que cette logique est relativement récente et que surtout, elle est loin d'être naturelle. Et donc, vous avez comme illustration des chiffres. En 1950, seulement 5% des propriétaires, c'est-à-dire seulement 5% des personnes qui occupaient des logements à Barcelone et Madrid étaient des propriétaires. Et en 97, ce taux est monté à 90%. En 2007, 87%. Et aujourd'hui, en 2012, 81%. Hein, ce qui, on peut voir aussi l'effet des expulsions ou l'effet de la crise. Donc, pendant peut-être là où on peut identifier de façon plus affirmée la politique d'encouragement d'accès à la propriété, c'est dans les années 60, c'est cette période de la politique économique franquiste qui a reçu le nom de développementalisme, desarrollismo, et donc c'était à cette période où les promotions semi-publiques, hein, je dis semi-publiques puisque c'était surtout des promoteurs privés fortement subventionnés qui étaient les responsables de la construction des promotions de logements sociaux, mais toujours orientés à la vente, à l'achat, se sont développés. Et avec une forte logique politique, il s'agissait en fait de briser les réseaux de solidarité sociale qui s'étaient établis ou qui se développaient dans les périphéries des grandes villes, Madrid, Barcelone, Bilbao, Séville, où les modes de détention ou les modes de solution dominante au problème du logement étaient l'autoconstruction des bidonvilles, le barraquisme, dont la construction de logements spontanés. Et donc pendant les années 60, les promotions de logements publics sont conçues dans une logique aussi de moralisation des individus, donc de prise de responsabilité des individus et aussi dans cette logique de brisement des logiques ou des réseaux de solidarité qui se tissaient dans les périphéries ou des grandes villes où il faut rappeler que le mouvement des voisins, un mouvement fortement lié à l'opposition anti-franquiste, était solide. Ici vous avez une photo des années 60 d'un quartier de Barcelone. Dommage, je pensais à mettre une carte de Google Maps à côté pour pouvoir identifier où se trouve ce quartier. C'est un quartier qui s'appelle donc Ville Meridienne, Ciudad Meridiana. C'est un quartier de la périphérie au nord-est de la ville de Barcelone. C'est un des rares quartiers de Barcelone où il y a des bars, dont les bars sont assez peu fréquentes à Barcelone. Et donc ces bars sont le résultat de promotions privées, donc très, mais fortement subventionnées par l'État. Et donc c'était des logements sociaux, mais destinés à la vente. Et donc avec le slogan, la pub de l'époque, votre problème de logement est réglé à Ciudad Meridiana. Ciudad Meridiana aujourd'hui reçoit le nom de village expulsion, puisque c'est le quartier qui concentre le plus d'expulsions immobilières au niveau de tout l'État. Hein. C'est le quartier espagnol qui concentre le nombre le plus élevé d'expulsions de propriétaires, hein, d'hypothéqués. Alors, une autre date assez pertinente pour comprendre l'évolution des politiques de logement en Espagne, c'est 1985, donc on est déjà en période démocratique, gouvernement du Parti Socialiste, et donc la promulgation de la loi Boyer, hein, Boyer étant le ministre de l'économie à l'époque, et donc c'est un décret qui s'inscrit dans une logique très keynésienne d'encouragement de la consommation des familles, et qui a un chapitre, un logement très, très important. Et comment ? En fait, cette loi Boyer va être responsable de la libéralisation des loyers, du prix des loyers, qui pendant toute la dictature avait été respectueux du principe de loyer qui ne changeait pas, hein, ce qu'on appelle, alors je fais une traduction sauvage littérale, des appartements ou des biens immobiliers de rente ancienne, hein, c'est-à-dire que le prix qu'on avait engagé au début lorsqu'on avait signé le contrat, même si c'était pendant les années 30, les années 40, n'allait pas changer, ne changeait pas, changeait juste avec l'inflation. Alors, la loi Boyer donc permet la libéralisation de ces loyers anciens et permet aussi, en tout cas encourage l'incitation fiscale à établir différentes formes d'incitation fiscale à l'achat. Alors, le résultat de cette loi Boyer était loin les résultats étaient loin de rassembler à ceux qui avaient été prévus, hein, puisque la logique de la loi Boyer en ce qui concerne le volet logement était donc de favoriser l'accès au logement tout en prenant compte du fait que les besoins de logement étaient différents en fonction des individus, en fonction des familles. Mais finalement, le résultat, c'est l'augmentation des difficultés pour accéder au loyer, aussi l'expulsion des locataires à qui cette loi imposait une révision, toujours à la hausse, bien sûr, des montants hein, qu'ils payaient depuis des années. Donc voilà, c'est une étape donc, qui renforce encore une fois l'accès, la propriété comme mode privilégié de détention immobilière. Et avant de rentrer dans la période qui nous concerne, dans celle de la bulle immobilière, donc, il faut mentionner la loi de 98, donc la dite loi du sol, officiellement c'est la loi du sol, mais les critiques de cette loi l'appellent la loi du tout urbanisable, c'est-à-dire donc, c'est une loi en fait qui a dérégulé la qualification des terrains, c'est-à-dire donc qui a permis aux communautés autonomes de réqualifier les terrains en sol urbanisable, qui a permis même l'émergence d'acteurs privés qui pouvaient s'attribuer un rôle affirmé dans la réqualification des terrains. Et c'est la raison pour laquelle cette loi du sol de 98 est souvent présentée comme celle qui a permis le déclenchement du processus. Donc aujourd'hui, avec le recul, on identifie comme donc, cette bulle immobilière. Alors, les plans de logement promulgués par le gouvernement à partir de cette loi du sol, identifie trois axes qui accompagnent dans la période 2002-2008, donc qui accompagnent la période jusqu'à l'éclat de la bulle. Et donc ces trois points sont l'administration maintient la barre d'un certain niveau de revenus donnant droit au logement protégé. Il faut dire que ce sont des catégories sociales très restreintes, celles qui ont accès aux dispositifs publics d'aide au logement. Et en fait, ces catégories ne renvoient pas aux catégories les plus précarisées. Les catégories les plus précarisées n'ont simplement aucun dispositif, ne peuvent envisager aucun dispositif qui soit conçu pour elles. Un exemple de cette... un exemple de cette barre, donc il s'arrête à un certain niveau de revenus. C'est une décision qui a été prise par le gouvernement socialiste en 2008, un dispositif appelé rente basique d'émancipation, qui en fait visait aider les jeunes entre 22 et 30 ans à les aider à louer des appartements. Et en fait, pour pouvoir avoir accès à cette aide, il fallait avoir un niveau minimum de revenus de 22 000 euros par an. Ce qui, quand même, est beaucoup hein, à l'égard de la catégorie des milloristes, hein, c'est-à-dire dans cette catégorie connue comme milloristes, la plupart des jeunes hyper qualifiés qui ont du mal à être payés plus de 1000 euros par mois, donc sachant que le salaire minimum en Espagne tourne autour des 670 euros. Donc, un deuxième élément qui caractérise les plans de logement à cette époque, la consolidation d'une forme de partenariat public-privé à la base du marché hypothécaire. Donc, comment cela se traduit en fait sous la forme d'incitation et de facilités qui ont été données aux entités bancaires, donc pour faciliter la vente de produits hypothécaires, donc bien sûr des facilités qui tiennent au cadre législatif sous lequel les entités bancaires peuvent exercer leur activité. Et un troisième axe, la référence constante au manque de compétences étatiques dans le domaine du logement, c'est-à-dire dans le discours, on n'a plus de ressources pour construire, hein, on ne peut pas destiner plus de ressources aux logements sociaux, soit d'achat, soit de propriété, soit de location. C'est au marché, en fait, c'est au marché privé de fournir et de régler les besoins en logement. Et donc, on arrive à... avant d'arriver à l'éclat de la bulle, donc vous rappelez à nouveau les résultats concrets de cette période, de cette période croissante qui avait été présentée comme la période du miracle économique espagnol, puisque dans le parc de logements augmente de façon exponentielle. Comme je vous disais tout à l'heure, en 2005, on bâtit plus qu'en France, en Italie, en Allemagne, les trois pays ensemble. Et les prix augmentent aussi de façon exponentielle. J'ai pas retranscrit les chiffres, mais je peux vous les lire. Les chiffres concernant le prix du mètre carré bâti. En 1990, le mètre carré coûtait 915 euros. En 1994, 954 euros. En 1998, 1090 euros. Bon. En 2002, 1667 euros. En 2005, 2516. En 2007, 2009. Donc, une augmentation, le prix avait triplé en 10 ans. Un petit peu plus de 10 ans. En 17 ans. Alors, donc, pour favoriser l'écoulement commercial des biens immobiliers, de cette quantité de biens qui avaient été construits entre 1998 et 2007, le gouvernement favorise, les différents gouvernements, hein, ben surtout le gouvernement du parti populaire entre 1996 et 2004, et ensuite le gouvernement du Parti Socialiste entre 2004 et 2007-2008, hein, dont je pense à l'éclat de la crise immobilière, donc favorisera l'accès au crédit à travers, entre d'autres mesures, de la réduction des taux d'intérêt. Donc c'est une situation qui est favorisée par la disponibilité, par le contexte international de disponibilité du crédit. D'ailleurs, cela s'accompagne aussi d'un discours dominant, d'un discours extrêmement présent au niveau médiatique, au niveau politique, au niveau publicitaire, qui présente le recours au loyer comme du jet d'argent à la poubelle. Il s'instaure cette idée comme quoi louer, c'est de gaspiller son argent, hein, puisque la location ne donne pas lieu à la propriété, hein, la détention d'un bien. Le discours aussi ou l'argument comme quoi la propriété, la valeur de la propriété ne chutera jamais, hein, puisque on est précisément pendant, on est dans cette période ascendante où la valeur des propriétés se développe, grandit. Donc idée que si jamais la famille qui avait acquis un bien ne pouvait plus faire face aux hypothèques, elle aurait toujours la possibilité de vendre sa propriété sur le marché et donc de récupérer l'argent et même d'obtenir un profit, hein, puisque la valeur des propriétés a augmenté. Les travailleurs immigrés ont été spécialement touchés par cette situation, notamment des travailleurs qui sont arrivés en Espagne pendant cette période de croissance et de croissance basée sur la construction et qui sont arrivés engagés dans le secteur du bâtiment. L'éclat de cette bulle en 2007-2008 surprend les entreprises, les promoteurs de la construction avec un stock énorme de millions de logements neufs sans vendre. On identifie, il y a ce groupement LAPA par exemple parle aujourd'hui de 6 millions d'immeubles vides. D'autres sources parlent de 3 millions d'immeubles vides. Plusieurs promotions sont finies, des sols achetés à un prix très, très élevé. Et surtout des milliers de personnes jetées au chômage. Les régions qui concentrent le gros d'expulsions, ou en tout cas les plus sérieuses, ou le majeur nombre de situations d'endettement et donc par conséquent de problèmes d'expulsion immobilière, sont la Catalogne, Madrid et Valence. Donc, ce sont les régions les plus peuplées, mais ce sont aussi les régions où la promulgation de la loi du sol en 1998 avait donné lieu aux pratiques les plus agressives d'application de toutes les potentialités spéculatives de cette loi. Je voulais juste vous expliquer très brièvement qu'est-ce qui se passe lorsque ne peut pas payer son hypothèque en Espagne, puisque les caractéristiques de la loi hypothécaire espagnole sont différentes de la situation dans d'autres pays, l'Allemagne ou la France par exemple, qui suivent aussi des modèles différents entre elles. Très brièvement, ça c'est classique, hein, lorsqu'on n'a pas assez d'argent pour acheter un bien immobilier, on demande un prêt à la banque. Et en fait, on hypothèque son bien, c'est-à-dire dont le bien immobilier est garanti, et la garantie du remboursement du prêt, mais c'est pas que le bien immobilier. Hein. Ce qui est considéré comme garantie du prêt dépasse le bien immobilier, et donc, comme je vous disais tout à l'heure, peut être étendu au salaire, à d'autres biens possédés par la personne hypothéquée et aux biens des garants, hein, si ces garants existent. L'occupant de la maison, l'occupant de l'hypothéqué, hein, la personne hypothéquée, est juridiquement propriétaire de sa maison, mais en réalité, elle est propriétaire d'une hypothèque. Et en fait, donc, l'hypothèque retombe sur la personne et pas sur le bien. Alors, la loi envisage que une procédure d'expulsion s'active à la suite du premier mois d'impayé. Premier mois d'impayé, la banque, le créancier, est habilité par la loi pour interposer une demande auprès du tribunal qui entame une procédure d'expulsion. Il s'agit d'un procès exécutif où le juge ne juge pas, en fait, mais exécute ce qui est prévu par la loi. Et en fait, la loi n'accorde pas de marge de manœuvre au juge pour évaluer les conditions pour lesquelles la personne, l'hypothéquée, n'a pas pu faire face à son obligation mensuelle. Alors, passé quelques mois, normalement c'est... la loi établit une période de 3 mois, mais en réalité, ce qui se produit, c'est beaucoup plus ambigu. La moyenne, une fois la procédure est entamée, la moyenne de mois jusqu'à arriver à la deuxième étape, qui est la vente de la propriété aux enchères, est de entre 8 et 9 mois. Mais parfois, il y a des cas où la famille a attendu un an et demi, jusqu'à ce que sa propriété, entre guillemets, soit vendue. Soit vendu aux enchères, hein, cela se passe au tribunal de première instance. Alors, si aucun acheteur n'apparaît, ce qui est le cas, puisque voilà, dans cette situation de crise économique, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont au tribunal acheter des appartements, des maisons, la loi hypothécaire permet à la banque de s'attribuer, d'acquérir le bien pour un montant correspondant aux 60% de la valeur, ce qu'on appelle la valeur de taxation, la valeur qui apparaît écrite hein, sur le contrat d'achat hein, du bien immobilier. Donc à partir de ce moment, le propriétaire n'est plus l'hypothéqué n'est plus le propriétaire officiel du bien. Hein, c'est la banque qui devient la propriétaire du bien et il ne lui reste que à attendre l'expulsion effective. Alors une autre particularité de la loi hypothécaire espagnole. Si le montant par lequel la banque s'est attribué le bien ne couvre pas ce que l'hypothéqué a déjà à payer, l'hypothéqué est toujours en dette avec la banque. Je vous pose un exemple avec quelques chiffres. Hein, imaginons que je m'achète un appart, hein, il coûte 200 000 euros, donc je demande un prêt de 200 000 euros. Au bout de 10 ans, j'ai déjà payé, en réalité, je dois à la banque 250 000 euros, hein, puisque il y a des intérêts aussi qui font monter, qui font grandir le montant. Alors, imaginons qu'au bout de 10 ans, j'ai déjà payé 100 000 euros. Non, ça veut dire qu'il me reste à payer 150 000 euros. Mais je ne peux plus faire face à l'hypothèque, donc pour des raisons X, Y. Donc, je reçois l'ordre d'expulsion, la procédure d'expulsion commence. Ma maison est vendue aux enchères, aucun acheteur ne s'est présenté, donc la maison est acquise par la banque et la banque donc s'attribue ma maison pour une valeur de 60% du prix, donc ce qui représente 90 000 euros. Alors la différence entre la dette qui reste et le prix que la banque a payé pour s'attribuer l'immeuble, en plus des frais judiciaires, en plus des intérêts pour le retard des paiements, des mensualités, c'est tout ce que je dois toujours à la banque. Alors ça veut dire qu'à la fin, finalement, je dois toujours à la banque 60 000 euros. Donc j'ai perdu ma maison et je dois toujours à la banque 60 000 euros. 60 000 euros en plus qui vont grandir, hein, puisque il faut ajouter les intérêts que cette dette produit tous les mois. Alors c'est la raison pour laquelle la plateforme des victimes des hypothèques donc considère que une expulsion hypothécaire ne produit pas seulement la perte du toit, ce qui est déjà important, mais produit aussi la mort civile, dans le sens où les familles se trouvent avec une dette un peu qui va leur accompagner toute leur vie, ce qui va rendre difficile l'ouverture de services, ce qui va rendre difficile aussi d'avoir accès à un loyer, hein, puisque en plus ces personnes vont être inscrites dans un registre d'insolvables. Et donc c'est la raison pour laquelle la revendication principale de cette association est la dation en paiement. Voilà, donc, c'est-à-dire la nullité de la dette, hein, de la suppression de cette dette qui accompagne l'expulsion immobilière. Bon, j'ai beaucoup parlé, je crois. Alors, très brièvement, je me disais aussi qu'il pourrait être intéressant de comprendre d'où venait cette plateforme des victimes des hypothèques qui aujourd'hui constitue donc l'acteur le plus visible du droit au logement mais qui est loin d'être le seul acteur. Donc très brièvement, peut-être on pourrait commencer, j'aimerais bien mentionner comme précédent les grèves de locataires donc qui se produisent pendant les années 20, les années 30, et dans le cas de la Catalogne, qui est le cas que je connais le mieux, ce sont des mouvements qui se sont développés surtout à l'occasion de l'exposition universelle de 1929, dont avec l'augmentation ou l'afflux d'immigrants, de travailleurs immigrés qui s'établissent dans les quartiers périphériques de Barcelone dans ce cas-là. Ces grèves de locataires pendant les années 30 ont été encadrées par la CNT FAI. Et je vous pose un exemple, la grève, la manifestation, la marche du 1er mai de 1931 de la CNT avait comme slogan un 1er mai contre le chômage, la cherté de la vie et pour la baisse des loyers. En fait, ces grèves de locataires revendiquaient une baisse des loyers de moins 40%. Ou en tout cas, ils revendiquaient la fixation des loyers à une barre au-dessous des 30% des revenus de chaque ménage. Un deuxième acteur, un deuxième moment du droit au logement pourrait être associé à la mobilisation des voisins, au mouvement de voisins, le movimiento vecinal, qui se développe fortement pendant la dictature franquiste, et en fait qui associait des problématiques liées au logement à des problématiques plus globales d'aménagement des quartiers, d'accès aux services dans les quartiers, électricité, assainissement, etc. Ici, je vous cite cela puisque les acteurs du droit au logement actuel font souvent référence à ces précédents, les grèves de locataires et le mouvement de voisins des années 60, des années 70. Et le fait de faire référence à ces acteurs historiques tient fortement aux inclinaisons politiques des acteurs actuels. Ici, vous avez dans la photo une photo qui représente, qui illustre l'une des luttes les plus célèbres du mouvement des voisins à Barcelone, notamment dans un quartier aussi périphérique qui s'appelle Nou Barris. Et donc c'est une lutte qui est fréquemment évoquée par les acteurs actuels du droit au logement. Et donc vous voyez, c'est la photo d'un bus. C'est juste un bus qui a été kidnappé par l'association de voisins du quartier à la fin des années 60. Donc c'est un quartier assez perché dans la montagne. Et en fait, le kidnapping du bus s'est fait pour montrer à la mairie que les caractéristiques topographiques du lieu n'étaient pas un prétexte pour justifier le manque de transport public, de transport en commun, du fait que les bus ne montent pas au quartier. Non, ils ont montré cela en kidnappant le bus et en le faisant monter au quartier, pour montrer que les bus pouvaient bien monter là-bas. Donc, c'était juste un exemple pour nous éclairer les référents, les précesseurs qui sont évoqués par les acteurs actuels du mouvement du droit au logement. Troisième étape, troisième acteur à considérer, le mouvement Ocupa, le mouvement des squats, le mouvement des squatteurs, qui en Catalogne se développe à partir des années 80 et qui intègre différentes familles idéologiques, communistes, anarchistes, libertaires, autonome, en tout cas, c'est toujours une difficulté à identifier, à définir clairement qu'est-ce que c'est que le mouvement autonome, mais dans le cas du mouvement Ocupa en Catalogne, les acteurs qui revendiquent l'étiquette de l'autonomisme, ce sont des acteurs qui ont choisi l'ouverture des espaces occupés au quartier et qui ont privilégié en fait l'établissement de rapports coopératifs avec le mouvement des voisins, donc qui ont privilégié l'ouverture des projets d'occupation à un discours assez général de dénonciation des politiques urbaines, des dénonciations des politiques spéculatives appliquées dans les grandes villes. Hein, donc je rappelle que je parle aussi, mon discours a tendance à se focaliser sur le cas de la Catalogne, hein, que je connais le mieux. Et donc, mouvement Ocupa qui, à certains niveaux, peut être très lié au réseau qui se mobilise, hein, surtout par rapport au droit à la ville, hein, et qui se mobilise à propos de thématiques liées à les spéculations immobilières. Alors finalement, l'APA, cette plateforme des victimes des hypothèques créée en 2009, d'où vient-elle? Alors non, ma réponse tient à l'inscription des pionniers, des promoteurs, des créateurs de cette association dans d'autres mouvements sociaux. Et on pourrait peut-être identifier trois origines majeures, hein, si on regarde les personnes qui sont à l'origine du projet, des militants du mouvement Ocupa et surtout donc de ce mouvement qui se revendique autonome, qui se détache de la discipline partisane ou qui ne fait pas, qui se revendique autonome et de plus en plus détaché des références partisanes qui peuvent être revendiquées par d'autres acteurs de l'espace Ocupa et donc qui ont investi plutôt une forme d'occupation caractérisée par l'appropriation d'espaces ouverts au quartier et où l'on développe des centres sociaux. En deuxième lieu, des militants du droit à la ville, très connectés avec le classique mouvement des voisins qui connaît ses origines pendant le franquisme. Et troisième famille, les participants à UV de Vivienda. UV de Vivienda, si on fait une traduction littérale, il faudrait dire aile de logement. Mais en fait, ce mouvement UV de Vivienda est un mouvement très informel, c'est plutôt l'idée d'un réseau très informel d'individus qui se rassemblent autour, à partir de l'année 2006, qui se rassemblent autour de plusieurs appels à manifestations qui ont été lancés depuis les réseaux sociaux autour de la dénonciation de la difficulté pour les jeunes d'avoir accès au logement. Et en fait, ce mouvement UV de Vivienda, peut-être les caractéristiques les plus intéressantes sont qu'il a permis, une certaine transition entre les acteurs, entre ceux qui caractérisaient en termes d'acteurs le mouvement pour le droit au logement, donc qui était fortement peuplé de profils tels que les Ocupa, les membres des associations de voisins. Donc une transition de ce profil fortement politisé, ancré dans des mouvements sociaux, parfois des formes de multi-appartenance associative ou mouvementiste, vers un autre profil de militants pour le droit au logement, plus ouvert, plus vague, qui concerne pour la première fois des propriétaires, des classes moyennes qui ne questionnent pas la propriété privée comme forme tout à fait légitime de détention immobilière. Et ce mouvement aussi se caractérise par une vision, par une proposition assez créative, provocatrice de mobilisation. Ici vous avez une photo d'un super-héros, Super Vivienda, Super Logement. Bien sûr, Super Vivienda joue cache un jeu de mots avec survivant, hein, superviviente, c'est-à-dire un Super Vivienda, celui aussi qui réussit à survivre, à s'imposer, à nager au milieu de la difficulté de cette problématique résidentielle, dans cette difficulté d'avoir accès au logement. À côté, une affiche d'une manifestation organisée par le mouvement avec un slogan assez provocateur, hein, et dont on en avait, c'était la première fois qu'on entendait ce type de slogan. Faut pas traduire, non? Je crois que tout le monde a compris. Hein? Bon. Et donc, bon, cette plateforme des victimes des hypothèques rassemble des militants qui proviennent de ces trois familles, hein, des personnes qui viennent du mouvement Okupa, mais qui s'inclinent, ou en tout cas qui s'intéressent surtout à cette forme d'occupation centres sociaux ouverts au quartier. Donc deuxième famille, les réseaux organisés autour de la dénonciation des politiques urbaines en Catalogne, puisque cette plateforme est créée à Barcelone. Et troisième famille, des jeunes, pour qui la première expérience de militantisme tout court, hein, pas simplement dans le droit au logement, hein, la première expérience de militantisme tout court était dans ouvrir des viviendas. Donc, ce qui va permettre, cela permet en fait de partir avec un projet, ce projet de la plateforme des victimes des hypothèques, qui est plus inclusif, beaucoup plus inclusif que les acteurs qui avaient représenté ou qui avaient promu le droit au logement auparavant. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un mouvement qui ne questionne pas la propriété privée comme mode de détention immobilière légitime. En fait, c'est un mouvement de propriétaires. C'est un mouvement de propriétaires. Et c'est un mouvement donc qui joue ça, en fait, qui rappelle cette nature, qui rappelle cette caractéristique. Cette caractéristique lui sert précisément à construire ce rapport conflictuel avec les différents gouvernements dont je vous parlais rapidement en deux points, hein, à partir du discours du collectif et à partir des actions du collectif. Alors, la plateforme se présente comme un mouvement, ici je paraphrase, hein, je reprends des citations qu'on peut trouver dans la production écrite de la plateforme, un mouvement citoyen qui compte avec la participation de milliers de personnes, la plupart victimes des hypothèques, mais aussi des solidaires, un mouvement apartisan, pluriel et transversal. Un mouvement qui intègre des personnes scandalisées par les politiques conduites par le Parti Populaire et le PSOE, les deux gouvernements responsables du développement de la bulle immobilière, et un mouvement qui se présente aussi comme gardien de la démocratie. Et en fait, peut-être que c'est l'argument ou c'est le point de construction de la conflictualité que je trouve le plus intéressant à propos de la plateforme. Même si la plateforme identifie clairement comme but ou identifie comme domaine d'intervention le logement, la question du logement, elle se projette aussi comme le seul et vrai opposant actuel au bipartisme, à la logique bipartisane, PP-PSOE, qui aurait établi les bases ou qui aurait rendu possible les conditions sous lesquelles le marché hypothécaire s'est développé de la façon dont ça a été fait en Espagne. Donc ce mouvement se présente comme un gardien de la démocratie, comme le seul ennemi du gouvernement, comme la seule opposition. Bien entendu, il ne s'agit pas de prendre le pouvoir, hein, mais il s'agit de changer, de promouvoir un changement hégémonique dans la société, avec donc beaucoup de guillemets, puisque on est toujours sur le principe de défense et de pas de promotion de la propriété comme mode privilégié de détention immobilière, mais en tout cas bon, de défense de ce droit et de défense des droits des propriétaires, hein, donc à pouvoir avoir une deuxième opportunité. Et si cette deuxième opportunité implique l'achat, à nouveau, implique le recours à la propriété, bon, voilà, cela est complètement, parfaitement envisagé par ce groupe. Et c'est en fait une des raisons, c'est une des lignes de fracture ou c'est une des sources de tension entre la plateforme et d'autres groupements actuels qui militent pour le droit au logement, qui sont plus dans une logique de promotion de modes alternatifs de détention, qu'il s'agisse de la location, de la coopérative d'habitants, etc. Aussi au niveau du discours, alors de quelle façon l'APA construit, dit, énonce le problème du logement? Le problème du logement est surtout présenté comme celui des propriétaires, ce qui d'ailleurs est la peut-être les spécificités de la bulle immobilière. La bulle immobilière a créé une toute nouvelle catégorie de victimes des problèmes de logement en Espagne. Bon, c'est ces classes moyennes, ces petites classes moyennes qui ont eu accès au crédit et qui ont acheté. La bulle a deux responsables directs, hein, les gouvernements du PSOE et du PP, et la banque. L'endettement des familles est le résultat d'un escroc à grande échelle. Et ici, vous avez la photo d'un autocollant qui est produit de façon massive par la plateforme et qui joue un rôle très important dans certaines quelques actions de la plateforme. Je ne vous ai pas parlé des actions les plus pratiquées par cette plateforme, mais par exemple, il faut mentionner l'occupation de banques, hein, l'occupation d'agences bancaires, hein, un groupe de 50, 60, 100 personnes qui occupent une banque et qui restent pendant quelques heures, le but étant d'obstruire le fonctionnement, la routine de la banque, et cela se fait avec donc un peu de matériel, un peu de logistique, et parmi la logistique, on trouve dans ces autocollants où l'on dit que cette banque vole, trompe, escroque et expulse les gens de chez eux. Alors voilà ce qui concerne le discours, hein, le discours audible, le plus audible de cette plateforme, mais le rapport conflictuel est aussi s'appuie sur les actions et je finirai, j'ai encore peut-être 5-10 minutes, non je finirai avec la présentation de deux actions, de deux campagnes qui à mon avis illustrent assez bien le type de positionnement ou l'attitude que la plateforme construit à l'égard des gouvernements censés être les responsables de la bulle immobilière et de l'éclat. Alors la première campagne, c'est celle de la ILP. Alors, une ILP, c'est une initiative législative populaire, c'est un dispositif par lequel on peut faire remonter un projet législatif issu de la société civile. Et pour le faire, en fait, la procédure est assez compliquée, puisque d'abord, il faut que le Congrès des députés accepte le projet avant qu'on passe à la deuxième phase, qui est celle de la récolte de signatures. Bon, la deuxième phase qui est celle de du ramassage, de la récolte de signatures, il faut pour que le projet, la proposition soit acceptée par le Congrès, mais acceptée, c'est-à-dire qu'elle soit recevable pour négociation, discussion, il faut que les promoteurs de l'initiative législative populaire ramassent 500 000 signatures tout au long d'une période de 9 mois. Alors bon, c'est assez compliqué. Donc l'APA a lancé une campagne pour une initiative législative populaire pour la dation en paiement, l'arrêt des expulsions et le loyer social, en tout cas pour la remontation du parc de loyer social en Espagne. Alors, ça a été une course d'obstacles, cette campagne pour la ILP, mais finalement, la proposition a été acceptée par le Congrès en février 2013. Et le résultat final, c'est-à-dire ce qui a été approuvé par le Congrès, hein, des députés, ne contient aucune des revendications, aucune des demandes qui étaient contenues dans le projet législatif fourni par la plateforme. Donc la plateforme considère que la nouvelle loi hypothécaire qui a été approuvée en mai 2013 ne répond d'aucune façon et s'éloigne bien de ce qui avait été projeté. En tout cas, dans tout au long de cette campagne a permis en fait de publiciter la plateforme, de publiciter le discours de la plateforme et de construire ce rapport conflictuel, de construire en fait cet écart entre des gouvernements, entre les gouvernements, entre des élites politiques présentées comme étant complètement détachées de la société, et d'un autre côté la plateforme en tant que représentant de la société civile et en tant que vrai réceptacle des soucis, des inquiétudes de la société. Alors très lié à cette campagne, il faut donc mentionner une deuxième campagne qui a servi aussi à bâtir ce rapport d'opposition à l'égard des institutions gouvernementales, qui était dans la campagne des scratchés. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un scratché. les scratchés. Scratcher, ça vient de l'anglais scratch. Et en fait, bon, c'est rayé, le nom, rayé un nom du liste, par exemple. Mais les scratchés, en fait, ont été popularisés en Argentine. Au Chili, ça reçoit un autre nom, c'est la funa, je crois, si je ne me trompe pas. Mais les scratchés, en fait, consistent dans la mise à l'index d'un responsable politique considéré étant responsable d'un problème, en tout cas de quelque chose à dénoncer. Et en fait, les scratchés qui avaient été suggérés à la plateforme par des alliés, par des amis, des collègues, des compagnons de route, des militants les plus actifs de la plateforme, visaient en fait exercer une pression sur les députés pour qu'ils votent en faveur des mesures contenues dans la proposition de législative populaire. Alors les scratchés, la campagne des scratchés a pris la forme, en tout cas a eu comme matériau le plus visible, ces deux cercles, je pense, ces deux points, qui représentent en fait les deux boutons, bouton vert, bouton rouge, avec lesquels les députés votent. Non, le vert, bien sûr, c'est oui, le rouge, le bouton rouge, c'est le bouton du non. Ce qui est écrit sur chaque bouton vert, oui, c'est possible, oui, on peut, bouton rouge, mais ils ne veulent pas. Et en fait, c'était à travers de cette représentation de la capacité des députés à faire avancer ou freiner un projet législatif qu'on accompagnait, donc qu'on voulait exercer, qu'on exerçait une pression sur les députés donc pour orienter leur décision lorsqu'il allait être question de discuter, soit d'abord d'accepter la proposition et ensuite de discuter le contenu de la proposition de nouvelle loi hypothécaire. Alors les scratchés, ici vous avez donc quelques photos des scratchés qui ont eu lieu devant la maison des députés, et c'est surtout les députés du Parti Populaire et du Parti Socialiste qui ont été visés, qui ont été ciblés. Et les scratchés prenaient souvent la forme, comme vous voyez, on signalait, les militants rassemblés signalaient la maison des députés. Et il y avait une très grande importance était donnée à la parole des victimes. Il y avait un moment assez long de témoignage pendant lequel un micro circulait entre les personnes rassemblées. Et les personnes rassemblées racontaient leur expérience personnelle et pourquoi pour elles c'était tellement important de changer la loi hypothécaire pour obtenir la dation en paiement et ne pas se trouver avec une dette qui allait les accompagner toute leur vie. Pour finir, je vais conclure avec quelques dilemmes, quelques impasses liées à la construction de ce rapport distancié à l'égard des partis politiques. Dans cette présentation de la... même si la plateforme se présente comme un mouvement transversal, un mouvement complètement apartisan, il a développé des liaisons assez rapprochées, des rapports assez rapprochés avec les partis de gauche. En Catalogne, notamment, des alliances politiques ont été construites avec des acteurs qui aujourd'hui sont à la tête du mouvement indépendantiste, donc de l'articulation sociale des aspirations indépendantistes en Catalogne, je vous cite deux acteurs très actifs aujourd'hui dans cette articulation, l'articulation de ce projet. Le premier, c'est un parti politique, CUP, candidature d'unité populaire. C'est un parti de toute nouvelle création qui est composé de militants des mouvements sociaux et de militants de l'extrême gauche indépendantiste, extrême gauche indépendantiste qui a une longue tradition en Catalogne depuis le franquisme. Et deuxième acteur, un acteur non partisan, un acteur social, le processus constituant, donc qui se présente comme un mouvement social dont le but c'est de favoriser l'organisation d'assemblées locales dont le but serait de discuter quel projet d'État ou quel projet de société va-t-on mettre en place dans l'avenir ou à la suite d'une éventuelle indépendance. Alors la plateforme au niveau catalan a développé des liens très, très étroits avec ces deux acteurs, avec la CUP et le processus constituant. Et en fait, ce sont des alliances qui, bien sûr, vont à l'encontre de cette déclaration à partisane et qui produit aujourd'hui un travail fort de reformulation du projet et de l'identité du mouvement, et qui produit aujourd'hui un travail d'identification et de formalisation des lignes rouges qui ne peuvent pas être traversées. Afin surtout d'assurer l'équilibre d'un mouvement qui a une implantation étatique, hein, qui est présente dans tout, au niveau de tout l'État espagnol. Donc voilà, je finis avec une photo je ne vous ai pas parlé des actions du mouvement, mais une des actions, c'est l'occupation d'immeubles vides, mais en tout cas c'est une action relativement marginale. Qui prend de plus en plus de centralité aujourd'hui, hein, puisque la campagne de la ILP a fini, et puisque la plateforme est confrontée au fait que les expulsions concernent surtout des locataires et pas beaucoup plus que des propriétaires, la plateforme se montre de plus en plus disposée à ouvrir la voie de l'occupation des meubles vides. Et ici, donc, vous avez l'exemple d'un immeuble qui a été occupé dans la ville de Girona, enfin, concrètement la ville de Salt, donc, qui est à côté de Gironde. Et c'est un immeuble qui héberge aujourd'hui une quinzaine de familles et qui a reçu une offre d'expulsion en mai. Et donc finalement cette menace d'expulsion a produit une manifestation assez importante. Les pompiers se sont manifestés solidaires avec les occupants de l'immeuble. Ils ont déclaré qu'ils n'allaient pas participer à l'expulsion si jamais elle devait avoir lieu effectivement. Donc voilà, fini avec ces photos.